VOA Afrique, Le Monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Morgane Guiriec.
Bonsoir à tous et bienvenue à l'édition du mercredi 1er juillet 2015. À la une ce soir.
Crise au Burundi, la police affirme avoir tué 5 membres d'un groupe armé suite à un affrontement à Bujumbura.
Lutte contre le terrorisme au Mali, 3 djihadistes ont été tués dans la forêt de Sama lors d'une opération de ratissage près de la frontière ivoirienne.
Égypte, les djihadistes revendiquent les récents attentats dans le Sinaï alors que le pouvoir durcit le ton et promeut une nouvelle loi antiterroriste.
Un nouveau chapitre s'ouvre dans les relations américano-cubaines. Aujourd'hui, les présidents Obama et Castro ont annoncé le rétablissement des relations diplomatiques et l'ouverture dans quelques semaines d'ambassades à Washington et à La Havane.
Dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports.
Mais d'abord, le journal.
Un groupe armé qui a affronté ce mercredi à Bujumbura la police burundaise a été neutralisé. C'est ce qu'a affirmé à l'AFP un haut responsable de la police, ajoutant que 5 assaillants avaient été tués. Jacques Aristide.
Un policier a été tué dans les combats et 4 autres, mais aussi des civils, ont également été blessés, toujours d'après les forces de l'ordre. Aucune source indépendante n'était en mesure toutefois de confirmer le bilan. Les affrontements se sont déroulés dans le quartier de Chibitoke, un des fiefs de la contestation contre un troisième mandat du président Pierre Nkurunziza. Ce quartier était complètement bouclé à la mi-journée. Les affrontements armés ont débuté après que 3 grenades eurent été lancées ce mercredi matin contre une patrouille de police. Les forces de l'ordre ont alors entamé un ratissage du quartier et se sont heurtées à un groupe lourdement armé, selon les mêmes sources policières, qui affirment qu'un fusil d'assaut et un lance-roquettes RPG ont été saisis. Ces combats interviennent alors que le Burundi attend les résultats des législatives et communales de lundi, boycottées par l'opposition et décriées par la communauté internationale.
Lutte contre le terrorisme au Mali. 3 djihadistes ont été tués dans la forêt de Sama lors d'une opération de ratissage près de la frontière ivoirienne. D'après des sources sécuritaires citées par l'AFP, des armes, des motos et des drapeaux noirs ont été saisis au cours de cette opération de l'armée malienne, appuyée par des soldats ivoiriens et onusiens. Les autorités affirment que des terroristes se cachent dans la forêt de Sama, aux alentours de Fakola. Cette ville, située à environ 20 km de la frontière ivoirienne, avait été attaquée dimanche par des djihadistes présumés qui avaient détruit des bâtiments administratifs et de sécurité. D'après des sources sécuritaires, les assaillants se sont repliés près de la frontière ivoirienne.
Nouvelle attaque terroriste dans le nord-est du Nigeria, en banlieue de Maïdougouri. 2 kamikazes, une femme et un homme d'une vingtaine d'années se sont fait exploser aujourd'hui près d'un hôpital. D'après les témoignages collectés par l'AFP, la double explosion a eu lieu vers la mi-journée. La jeune femme, recouverte d'un hijab, aurait tenté d'entrer dans l'hôpital, mais elle aurait été forcée de s'arrêter aux abords du bâtiment. Leurs explosifs auraient alors été détonés. L'attentat est intervenu au moment où le vice-président entamait une visite surprise à Maïdougouri.
Et toujours au sujet du Nigeria, l'ONU demande aux autorités de ce pays de permettre l'avortement pour les femmes violées par les djihadistes de Boko Haram. Cette pratique n'est autorisée au Nigeria que si la vie de la mère est en danger. Et c'est justement les risques de suicide et la santé mentale des victimes que le haut-commissaire aux droits de l'homme demande de prendre en compte.
La branche égyptienne de l'État islamique, du groupe État islamique, a revendiqué la vague d'attentats meurtriers survenus ce mercredi dans la péninsule du Sinaï. Au moins 20 soldats égyptiens ont péri dans ces attaques, selon les autorités. On écoute Jean-Roger Bian.
Il y a eu des attaques simultanées contre de multiples barrages militaires, dont un attentat suicide près de la ville de Sheikh Zoued. Les lions du califat ont attaqué plus de 15 postes de contrôle de l'armée apostate, a affirmé le groupe État islamique dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux. Les attaques des djihadistes visant des postes de l'armée égyptienne dans le Sinaï se sont accrues depuis l'éviction du président islamiste Mohamed Morsi par le chef de l'armée d'alors et actuel président Abdel Fattah el-Sisi. Les dernières attaques surviennent quelques jours seulement après l'assassinat du magistrat de haut rang Hicham Barakat, tué par une bombe en bordure de route au Caire. Le chef de l'État égyptien a répondu mardi en promettant de renforcer les lois antiterrorisme et en tenant pour responsable de la mort du juge Barakat la confrérie des frères musulmans du président déchu Mohamed Morsi. Le procureur était en charge des procès de milliers d'islamistes qui ont été emprisonnés et condamnés dans le cadre d'une répression de masse après la chute de M. Morsi. Le président Abdel Fattah al-Sisi n'a pas donné de détails sur les réformes prévues, se contentant d'annoncer qu'elles seraient dévoilées dans les prochains jours.
Épidémie d'Ebola, au moins deux nouveaux malades ont été identifiés au Libéria. Mauvaise nouvelle qui intervient alors qu'hier déjà, on annonçait la mort d'un adolescent de 17 ans, victime du virus. Le premier cas en trois mois dans le pays. La population doit à nouveau appliquer les mesures d'hygiène en vigueur au plus fort de l'épidémie. Il faut dire que le Libéria, qui avait été déclaré exempt de la maladie le 9 mai par l'Organisation mondiale de la santé, pensait s'être débarrassé du virus.
Deux militaires français accusés d'attouchement au Burkina Faso. Les victimes présumées seraient deux fillettes de nationalité franco-burkinabé de 3 et 5 ans. L'AFP, tenant ses informations de sources proches du dossier, indique qu'elles auraient subi ces faits dimanche dans une piscine d'hôtel de Ouagadougou. Selon les premiers éléments de l'enquête, la mère d'une des victimes y aurait lié conversation avec deux membres des forces spéciales âgés de 36 et 38 ans. Sur une caméra oubliée par l'une d'entre eux, elle aurait visionné des scènes filmées sous l'eau, y voyant des attouchements auxquels se serait livré un des soldats. Elle se serait alors rendue à l'ambassade de France pour y montrer le film assez long et dénoncer les faits selon la source proche du dossier.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La Grèce s'achemine vers l'acceptation de nouvelles mesures d'austérité, mais les leaders européens excluent de nouvelles négociations avant le référendum de dimanche. Les précisions de Michel Joseph.
Le premier ministre grec Alexis Tsipras assure dans une lettre aux créanciers que son pays est prêt à accepter la plupart des termes d'un nouveau plan européen de sauvetage. Ce document a été distribué à la presse quelques heures avant une téléconférence des ministres européens des finances devant discuter de la nouvelle enveloppe de 32,4 milliards de dollars sollicitée par la Grèce et au lendemain du défaut de paiement de ce pays sur un prêt de 1,8 milliard du Fonds monétaire international. Toutefois, dans un discours télévisé à la Nation, Alexis Tsipras a appelé ses compatriotes à voter non au référendum de dimanche. Le non ne signifie pas une rupture avec l'Europe, mais un retour à l'Europe des valeurs. Le non signifie une forte pression pour continuer les négociations, a-t-il expliqué. S'exprimant devant le Parlement allemand, la chancelière Angela Merkel a fait savoir de son côté que l'Europe attendra l'issue de ce référendum et qu'il n'y aura pas de nouvelles négociations avant cela. Elle a rejeté l'idée selon laquelle la crise financière grecque provoquerait l'effondrement du bloc européen.
Les États-Unis et Cuba ont décidé de la réouverture d'ambassades à Washington et à La Havane à partir du 20 juillet pour la première fois depuis plus d'un demi-siècle d'hostilité et de défiance. Le président Barack Obama a lui-même annoncé à Washington le rétablissement formel des relations diplomatiques avec Cuba. Les précisions d'Idrissa Seydoudia.
Barack Obama a parlé de l'ouverture d'un nouveau chapitre. Les autorités cubaines avaient auparavant fait la même annonce que le président Obama. La réouverture d'ambassade fait suite à l'annonce historique en décembre d'un rapprochement entre ces deux pays qui se débarrassent ainsi de séquelles de la guerre froide entre les États-Unis et l'ex-Union soviétique. Dans son annonce aujourd'hui, le président américain a dit qu'il s'agissait là d'une étape historique dans les relations entre les deux pays. Il a également demandé au Congrès américain, contrôlé par ses adversaires républicains, de lever l'embargo contre Cuba qui asphyxie l'économie de l'île depuis des décennies.
Americans and Cubans alike are ready to move forward.
Les Américains et les Cubains sont prêts à aller de l'avant. Je pense qu'il est temps pour le Congrès de faire de même. J'ai appelé le Congrès à prendre des mesures pour lever l'embargo qui empêche les Américains de voyager ou de faire du commerce avec Cuba, a expliqué le président Obama. Le secrétaire d'État John Kerry se rendra cet été à La Havane pour hisser fièrement le drapeau américain à nouveau sur notre ambassade, a annoncé le président Obama.
Le chef de la diplomatie américaine John Kerry et son homologue iranien Mohammad Javad Zarif ont tous deux évoqué mercredi, aujourd'hui, des progrès dans les négociations sur le nucléaire iranien, selon l'AFP. Par ailleurs, le directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Yukiya Amano, doit rencontrer demain à Téhéran le président iranien Hassan Rouhani pour discuter du programme nucléaire iranien. Les puissances mondiales et l'Iran continuent de négocier à Vienne dans l'espoir de parvenir à un accord final d'ici le 7 juillet. Un point crucial qui sera soulevé par le patron de l'AIEA, c'est l'accès des inspecteurs onusiens aux installations nucléaires de l'Iran, y compris les bases militaires, dans l'éventualité d'un accord. Téhéran souhaite aussi la levée immédiate des sanctions, alors que le groupe 5+1 pense à un processus graduel en échange du respect de l'accord par le régime iranien.
Au moins 31 personnes ont été tuées et une centaine d'autres blessées dans un bombardement mené aujourd'hui par les rebelles chiites à Aden, deuxième ville du Yémen. L'AFP signale l'évasion de plusieurs centaines de détenus à la faveur des combats. L'ONU réclame une trêve humanitaire pour aider les civils au Yémen.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Coup d'œil sur l'actualité économique en Afrique et ailleurs. C'est la Minute Éco avec Claire Morin-Gibourg.
La dette totale du Nigeria s'élevait fin mars à 63,5 milliards de dollars, en hausse de 11,7% par rapport aux derniers chiffres de décembre. Le Nigeria, première puissance économique d'Afrique et premier producteur de pétrole du continent, a été frappé de plein fouet par la chute des cours mondiaux de l'or noir, qui représente plus de 70% des revenus de l'État. Le budget de l'État a dû être revu à la baisse, les salaires de certains fonctionnaires ont été gelés depuis plusieurs mois et la monnaie nationale, le Naira, a chuté de façon considérable face au dollar. En Afrique du Sud, le gouvernement a annoncé la vente de sa participation de près de 14% dans la compagnie de téléphonie mobile sud-africaine Vodacom, un holding parapublic pour venir en aide à la compagnie nationale d'électricité Eskom. Très endettée, l'entreprise publique est en train de réaliser des investissements lourds en maintenance et dans de nouvelles centrales thermiques pour répondre à la saturation du réseau. Eskom délivre 95% de l'électricité en Afrique du Sud. Et puis hausse de 12% du coût des appels téléphoniques aujourd'hui, 1er juillet en Guinée. Une nouvelle loi selon l'agence APA mise en place par le gouvernement pour réduire le déficit des finances de l'État, durement touché par l'épidémie Ebola. Au total, le gouvernement guinéen espère générer près de 900 milliards de francs guinéens par an, soit près de 90 milliards de francs CFA.
Voilà pour la Minute Éco avec Claire Morin-Gibourg. Merci.
Et nous passons tout de suite à l'actualité sportive. Bagassi Koura est en studio. Salut Bagassi.
Oui, bonsoir Chérubin, bonsoir à tous.
Copa América 2015, l'Argentine écrase le Paraguay, c'est le cas de le dire, pour se hisser en finale.
Oui, le Paraguay qui a été étrié 6-1 hier soir par l'Argentine en demi-finale de la Copa América 2015. 6 buts pour l'Albi Céleste et pas un seul inscrit par Messi. Lionel Messi est pourtant présenté comme le meilleur joueur du monde. Mais la Pulga, comme on l'appelle, a livré son meilleur match depuis le début du tournoi, peut-être même de sa carrière sous le maillot argentin. Il a été impliqué, Chérubin, dans la construction des 6 buts et a livré 3 passes décisives.
Donc finale samedi entre l'Argentine et le Chili.
Vous avez une préférence?
Le Chili qui s'est qualifié aux dépens du Pérou de 1. Je suis brésilien, donc
si on déduit du fait que vous êtes brésilien, vous êtes anti-Argentine.
Parlons de la Coupe du Monde féminine au Canada, Bagassi.
Oui, les Américaines sont en finale. Hein, après avoir battu la nuit dernière les Allemandes 2-0, c'est une surprise hein, parce que les Allemandes étaient données favoris. Et en finale, on aura États-Unis contre le vainqueur du match Japon-Angleterre qui s'est joué ce soir.
Un nouveau sélectionneur pour les Pays-Bas.
Oui, Danny Blind a été nommé à la tête de l'équipe nationale des Pays-Bas après le départ anticipé du précédent sélectionneur Gus Hiddink sous pression en raison de résultats décevants. L'ancien défenseur international âgé de 53 ans et jusqu'alors assistant de Hiddink prendra ses fonctions le 1er août. C'est ce qu'a indiqué la KNVB, c'est-à-dire la Fédération néerlandaise de football.
Athlétisme, forfait d'Usain Bolt pour le meeting arrivé de Paris samedi, ainsi que celui de Lausanne le 9 juillet.
Oui, le sprinter jamaïcain souffre d'un problème à la jambe gauche, selon les organisateurs parisiens. Je suis déçu de ne pas pouvoir courir à Paris et Lausanne. J'adore courir dans ces deux meetings, mais je ne suis pas à 100% de mes capacités. C'est en tout cas ce qu'a expliqué Bolt dans un communiqué aux organisateurs.
Merci, Bagassi Koura.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Chez Robin Dorsil et Morgane Guiriec, en votre compagnie, place au dossier du jour. Première escale, Gabi, le Burkina Faso.
Oui, le Burkina où des partis politiques et des personnalités du CDP, le parti de l'ex-président Blaise Compaoré, ont saisi la justice de la CEDEAO pour contester le nouveau code électoral. Le CNT a voté en avril une révision du code rendant inéligibles les personnes ayant soutenu un changement anticonstitutionnel portant atteinte au principe de l'alternance politique. L'affaire est en délibéré et la Cour de justice rendra sa décision le 13 juillet. Nathalie Barge a joint à Abuja Maître Hervé Kam, un des avocats du gouvernement de transition.
Elle n'est pas discriminatoire dans la mesure où les organes de la transition elles-mêmes, le chef de l'État, le gouvernement et les députés sont eux-mêmes interdits donc des prochains scrutins. Pour l'instant, aucune violation personnelle des droits de ceux qui ont saisi la Cour pour nous n'est encore constatée. Parce que ce qu'ils ont demandé en réalité à la Cour, c'est d'apprécier la légalité de la décision du CNT, ce qui n'est pas donc de la compétence de la Cour ni d'aucune juridiction internationale.
Alors vous venez de citer des cas d'inéligibilité, mais de personnes qui sont à des postes politiques. Ne craignez-vous pas que la partie adverse vous dise finalement que vous soutenez là un changement portant atteinte au principe de la démocratie ?
Non, c'est ce que nous avons dit. Le législateur burkinabé n'a fait que ce que tous les autres législateurs de la région africaine doivent faire, dans la mesure où l'article 25 de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance dit que ceux qui participent à un changement anticonstitutionnel du gouvernement ne peuvent pas être élus dans les élections de sortie des crises.
Est-ce qu'il ne s'agit pas là d'une atteinte à la liberté d'opinion, sachant que ces personnes dont vous parlez ont défendu leur opinion finalement ?
Je pense qu'il y a une confusion volontaire qui est faite entre ce qui peut relever de l'opinion politique, qui est une manière de penser qui ne peut en aucun cas être condamnable, et des actes politiques déviants, ce qu'en l'espèce ils ont fait. Donc de ce point de vue-là, il n'y a pas une sanction de la liberté d'opinion, il y a une sanction d'actes dommageables à la démocratie qui ont été posés. Cela doit nous permettre de construire l'avenir du pays donc sur les bases de responsabilité. Parce que quand on écoute d'ailleurs le discours de ces personnes aujourd'hui, ils disent que finalement ce sont les acteurs de l'insurrection qui ont fait un changement anticonstitutionnel de gouvernement. Je pense que là ce sont des considérations graves qui montrent que ces personnes jusqu'à aujourd'hui ne sont pas des repentis, ils ne sont pas encore conscients des actes graves qu'ils ont posés et à partir de ce moment, ce texte va s'appliquer à eux, d'accord, mais aussi à tous ceux qui poseront ce genre d'actes dans l'avenir. Et je pense que c'est comme ça que l'histoire des peuples se construit.
Maître Hervé Kam, un des avocats du gouvernement de transition burkinabé.
La Voix de l'Amérique au Burkina Faso sur Ouaga FM, 105.2 à Ouaga et 101.1 à Bobo. La Voix de l'Amérique, c'est aussi sur Horizon FM, à Ouaga, Bobo, Kudugu, Wayiguya et Fada.
La mission de l'ONU en République démocratique du Congo, la MONUSCO, a appelé le gouvernement à déployer ses policiers plus largement sur le territoire. Actuellement, seul un petit nombre d'agents de police est actif dans des régions où le taux de criminalité est élevé. Un programme de 5 ans devrait former le corps de police de Goma. Voici le reportage de Nick Lang, présenté par Salwa Jafari.
Martin Kobler a un message à passer. S'adressant aux médias, le chef de la MONUSCO a vanté les succès de l'armée commune et des opérations de l'ONU contre les rebelles. Mais il a souligné l'importance du suivi de ces succès avec une présence policière permanente.
On peut combattre contre les groupes armés si on n'a pas la restitution de l'autorité de l'État, l'administration civile, les agences de sécurité par là. Alors ça ne va pas être couronné au final du succès.
Kobler a donné l'exemple de la région de Bukaringi qu'il a visitée récemment, un territoire qui s'étend sur 400 km et où résident 64 000 habitants. Eh bien, on y trouve que 4 officiers de police, soit un agent par 16 000 personnes, alors qu'il devrait y en avoir un par 500 habitants. Les derniers chiffres officiels indiquent qu'il y a environ 100 000 policiers en RDC, un policier par 500 personnes à l'échelle nationale. Gento Mandou, un ancien président des groupes de la société civile dans la province du Nord Kivu, a toutefois déclaré à la VOA que ce chiffre doit être actualisé.
Dans la liste qu'on présente des policiers, vous allez trouver, sur cette liste, il n'y a que peut-être 60% des policiers réels. Mais les 40%, ce sont des policiers fictifs, donc des gens qui n'existaient pas, mais dont leur solde sort chaque fin du mois. Et l'argent est empoché quelque part.
D'après lui, seulement 60% des noms figurant sur la liste de la police sont en fait des policiers. Les autres sont des agents fantômes. Il existe de nombreux territoires comme Bukaringi où la présence de la police est minime, nous explique l'universitaire Maria Erickson Baz, une experte en services de sécurité du Congo. Elle nous dit que dans de nombreuses régions de l'Est, les policiers ne sont tout simplement pas présents, contrairement aux zones urbaines. Une absence due, selon elle, à la situation sécuritaire dans ces contrées. La police est simplement incapable de faire face aux groupes armés. Le gouverneur du Sud Kivu a déclaré le mois dernier que les forces de la police sont en cours de formation. L'intégration de nombreux anciens rebelles ne peut pas être achevée en 2 ans, faisant allusion à un programme de formation de 5 ans lancé en 2012.
Retrouvez La Voix de l'Amérique en RDC sur Radio Mungano à Beni, au Nord Kivu, sur 95.10 FM.
La Tunisie se dote d'un plan exceptionnel pour renforcer la sécurité de ses plages et autres sites touristiques après l'attentat sanglant revendiqué par le groupe État islamique qui a fait 38 victimes en fin de semaine dernière. Comment ce nouveau renforcement sécuritaire est-il accueilli ? A-t-il des chances d'être efficace ? Le point de vue du vice-président de la Ligue des droits de l'homme, Messaoud Romdani.
Ils peuvent être mis en place sûrement, mais efficaces, ça dépend de plusieurs autres facteurs. Vous savez que jusqu'à présent, la plupart des opérations, c'était pas très réussi face au terrorisme. Et je crois que la police tunisienne a besoin de plus de pratiques, de plus de professionnalisme face à de tels actes.
Est-ce que l'augmentation encore et encore du niveau de sécurité peut combattre efficacement le terrorisme, à votre avis ?
Pas seulement ça, donc il faut prendre d'autres mesures plus importantes, que le terrorisme ne se combat pas seulement avec la présence des agents. On a besoin d'un travail de renseignement plus important. Je crois que franchement, jusqu'à présent, que les informations, le mouvement, ce qu'on appelle l'espionnage ou informations que peut l'armée ou la police avoir, est déficiente jusqu'à présent, ce qui fait que le terrorisme a beaucoup de succès en Tunisie.
Comment réagit la population à ce nouveau plan?
La population en général espère bien que ça peut mener à quelque chose, surtout que le tourisme entre dans le PNB à peu près 13%. Un des rares facteurs qui peut faire réussir l'économie tunisienne déjà en difficulté, mais et fait travailler plus que 300 000 personnes. Donc, c'est un secteur très important jusqu'à présent. C'est-à-dire qu'il y a une grande déception suite à ce qui s'est passé le vendredi 26. On voit sur les réseaux sociaux que c'est laxisme des policiers qui n'ont pas pu faire face et une absence totale de policiers là-bas. Il y a une réaction des témoins de la population plus que réaction policière. Ça, bien sûr, ça nous donne pas beaucoup de confiance en l'appareil sécuritaire. Et moi, personnellement, j'espère que dans les jours qui viennent, les mois qui viennent, il y aura plus de réponses, plus d'efficacité et surtout plus de renseignements pour faire face à ce fléau.
Messa Oudrouamdani, vice-président de la Ligue des droits de l'homme en Tunisie. Il était joint à Tunis par Claire Morin-Gibourg.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum ce jeudi. Le Burundi, après les législatives et communales, la prochaine étape, la présidentielle prévue le 15 juillet, où le président Nkurunziza briguera un troisième mandat, une candidature contestée. À quoi faut-il s'attendre de l'actuel processus électoral? Le pays va-t-il s'enfoncer davantage dans la crise? Que faut-il faire maintenant pour sauver le Burundi? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h30.
Le CICR poursuit ses distributions de vivres et autres types d'aide humanitaire aux Maliens déplacés par les violences dans les régions de Mopti, Gao, Tombouctou et Kidal. Anani Koulimouchi Kachirongue du CICR à Bamako revient sur ces opérations.
En ce moment, tout le monde pense à la signature des accords, mais ce n'est pas au même moment que la situation se résout. Les gens ont fui dans tous les sens à cause de cette violence qui a marqué la région. Et c'est ces gens-là qu'il fallait aller assister. Et l'assistance qui leur était utile dans un premier temps, c'était cette assistance en vivre et non vivre. Et après, des semences pour qu'ils puissent, à cette approche de la saison de pluie, qu'ils puissent vaquer à leurs activités culturelles et bien se prendre en charge. Et bien entendu, les éleveurs étaient aussi à l'ordre du jour et ils ont été assistés également.
Est-ce que le CICR a le sentiment que la situation de ces déplacés se stabilise?
Pour l'instant, on observe ces déplacements. Il y a également, en même temps, des personnes qui sont retournées. Et tout ça, ça crée une sorte de difficulté, surtout pour les populations résidentes qui doivent subir tous ces mouvements et qui doivent partager le peu qu'ils ont avec ceux qui viennent. Et voilà. Donc, par rapport à cela, donc, le CICR a pensé qu'il fallait distribuer son assistance à toutes ces populations en attendant de voir comment la situation va évoluer. Si elle évolue vers le positif, tant mieux, mais cette population aura été déjà servie. Et les agriculteurs auront déjà reçu leurs semences et les éleveurs aussi, leur bétail aura été vacciné et protégé.
En d'autres mots, le CICR apparaît au plus pressé.
Exactement, il apparaît au plus pressé, intervenir dans les urgences, mais aussi sécuriser les gens à terme, quoi. Parce que nous pensons ici renforcer les moyens de production des populations pour réduire leur dépendance.
Voilà, c'était Anani Koulimouchi Kachirongue du CICR qui était joint à Bamako par Camille Gros-Didier.
Salut les amis, ici Roger Montou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, international music, comédie, country music. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Montou, la voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, un rappel de quelques grands points de l'actualité.
Crise au Burundi, la police affirme avoir tué 5 membres d'un groupe armé suite à un affrontement aujourd'hui à Bujumbura.
Lutte contre le terrorisme au Mali. 3 djihadistes ont été tués dans la forêt de Sama lors d'une opération de ratissage près de la frontière ivoirienne.
Nouvelle attaque terroriste dans le nord-est du Nigeria, en banlieue de Maïdougouri. 2 kamikazes, une femme et un homme d'une vingtaine d'années, se sont fait exploser près d'un hôpital.
La branche égyptienne de l'État islamique a revendiqué la vague d'attentats meurtriers survenus ce mercredi dans la péninsule du Sinaï. Au moins 20 soldats égyptiens ont péri dans ces attaques, selon les autorités.
La Grèce s'achemine vers l'acceptation de nouvelles mesures d'austérité, mais les dirigeants européens excluent de nouvelles négociations avant le référendum de dimanche. Et les États-Unis et Cuba ont décidé la réouverture d'ambassades à Washington et à La Havane à partir du 20 juillet, pour la première fois depuis plus d'un demi-siècle d'hostilité et de défiance. Cette édition touche à sa fin. On remercie Lionel Gaïma qui a dirigé la production, assisté de notre ami Al Santos à la console. Présentation Morgane Guériac et chérubin Gabi Dorsil.
Ainsi va le monde aujourd'hui. Retrouvez-nous sur Facebook et notre site internet voafrique.com. Les infos dans moins d'une minute.
Écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM. Kledou FM Bamako. Raga FM Goma. 96.5 Fraternité FM Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.